Très bon réveil à tous. Voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Un débat qui vire au chaos, à l'image d'une Amérique divisée. Donald Trump a affronté cette nuit son rival à la présidentielle, Joe Biden. Raillerie et attaque personnelle, on ne retiendra presque que ça. L'un des pires débats de l'histoire, disent déjà les commentaires outre-Atlantique. Nous y reviendrons dans un instant.
Et puis nous irons ensuite en Arménie, où des volontaires se pressent pour participer au combat face à l'Azerbaïdjan. Le Conseil de sécurité de l'ONU réclame un arrêt immédiat des combats dans le Haut-Karabakh.
La précarité a de nouveaux visages en France, conséquence de la pandémie de Covid-19. Le Secours populaire présente ce matin son baromètre annuel sur la pauvreté. Nous dresserons le portrait d'une nouvelle bénéficiaire.
Et puis nous nous pencherons sur les chiffres du Covid-19 en France. Ses interprétations à Londres, des scientifiques estiment que la botanique pourrait nous débarrasser de cette maladie.
Après ce journal, nous retrouvons Stéphane Robert pour le billet politique qui se demandera ce matin si la France pourrait perdre la Nouvelle-Calédonie. Un combat de boxe à coups d'invectives et de noms d'oiseaux. Le premier débat télévisé entre Donald Trump et Joe Biden aux États-Unis s'est déroulé cette nuit depuis Cleveland dans l'Ohio. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la forme a pris le pas sur le fond entre le président sortant républicain et l'ancien vice-président démocrate de Barack Obama. Benjamin Hilly, bonjour.
Bonjour.
Benjamin, vous avez suivi ce débat depuis New York cette nuit, un débat violent que vous nous racontez.
Joe Biden a essayé d'aller au bout de ses phrases, rester calme, éviter le regard de son adversaire, mais Donald Trump l'a dévoré des yeux, bouillonnant à l'offensive, lui coupant la parole, le poussant dans ses retranchements, et le démocrate a fini par lui dire la phrase qui a marqué le débat et donné le ton dès le début. Tu vas la fermer, mec. Donald Trump ne s'est pas laissé faire quelques minutes après.
Tu viens de intelligent avec moi, jamais. Parce que tu sais quoi, il n'y a rien d'intelligent chez toi, Joe. En 47 ans, tu n'as rien à dire intelligent. Tu as obtenu ton diplôme en étant le dernier ou presque le dernier de ta promotion. N'utilise jamais ce mot. Fait. Et laisse-moi te dire ceci. Si tu avais été au pouvoir à ma place, eh bien moi, j'ai bâti l'économie la plus prospère de l'histoire de notre pays. Et au fait, on est à nouveau sur cette voie.
Donald Trump, sûr de lui, comme toujours, les critiques sur ses impôts, balayées. Il assure avoir payé des millions de dollars de taxes. À la défense, il préfère l'attaque et accuse Joe Biden d'être la marionnette de la gauche radicale. Le démocrate le traite de clown. En retour, le chaos s'installe dans le débat.
Voilà donc pour les invectives, Benjamin. Sur le fond, maintenant quand même, les deux hommes se sont opposés sur plusieurs thèmes centraux, à commencer par l'épidémie de Covid-19.
Oui, la question de la crise sanitaire et de la gestion de Donald Trump, ciblée sans surprise par Joe Biden, qui en a fait l'un de ses arguments de campagne.
200 000 morts, nous représentons 4% de la population mondiale, mais 20% des victimes. 40 000 personnes par jour sont contaminées par le Covid, sans compter les 750 à 1000 personnes qui meurent quotidiennement. Quand on lui a mis cette statistique sous le nez, il a répondu « Les choses sont ce qu'elles sont ». Eh bien, les choses sont ce qu'elles sont parce que vous êtes qui vous êtes. Voilà la vérité. Le président n'a pas de plan. Il savait en février à quel point cette crise était sérieuse. Il savait que c'était une maladie mortelle. Qu'a-t-il fait? Il a répondu qu'il n'avait pas averti les Américains pour ne pas les paniquer. C'est lui qui a paniqué.
Donald Trump se défend. Simplement, nous avons fait un travail formidable. À la question posée au président sortant sur les agissements des suprémacistes blancs, aucune condamnation de Donald Trump qui voit des violences, surtout chez ceux qu'il nomme les antifas. Et il a profité du débat pour répéter que le vote par correspondance débouchera sur une élection frauduleuse selon lui. Joe Biden, regard planté dans la caméra, préfère s'adresser aux Américains. Allez voter pour éviter 4 années supplémentaires de mensonges.
Merci beaucoup Benjamin Hilly depuis New York ce matin pour France Culture. Prochain débat présidentiel outre-Atlantique prévu à la mi-octobre. Joe Biden qui accuse donc, on l'a compris, le président américain de faire passer l'économie avant la santé. À ce propos, notez que l'administration Trump a accordé hier soir des prêts pour 7 compagnies aériennes pour sauvegarder l'emploi. Dans le même temps, le géant des divertissements Disney a annoncé la suppression aux États-Unis de 28 000 emplois. Envolons-nous maintenant près du Haut-Karabakh, cette province en Azerbaïdjan où vivent des Arméniens, région au cœur d'un conflit entre les deux pays. Depuis dimanche, au moins 100 de personnes y sont mortes. Les deux camps assurent avoir infligé davantage de pertes que l'autre. Alors que le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé hier soir à un arrêt immédiat des combats, sur place, à Erevan, capitale de l'Arménie, les volontaires continuent d'affluer, Claude Broyot.
Certains débarquent en civil, d'autres sont déjà en tenue militaire. Les volontaires arméniens qui se regroupent dans l'aéroport de Yerevan hésitent à leur arrivée entre rejoindre un lieu de rassemblement dans la capitale ou prendre directement la route qui mène vers le Haut-Karabakh, pressés qu'ils sont d'en découdre. Aganès arrive de l'ouest de la Russie, il a laissé son travail de chauffeur sans hésitation. Il avait 17 ans lorsqu'il est parti combattre pour la première fois dans l'enclave arménienne en 1992. Il en a aujourd'hui 45, mais garde la même motivation.
C'est la mobilisation, c'est obligé, c'est la guerre. Nous n'attendons l'aide de personne. Nous allons nous battre pour notre terre, notre maison. C'est ça qui nous donne la force. C'est une question de qualité. Il n'y a pas seulement les engagés, il y a aussi les volontaires.
Aganès et ses compatriotes, issus de la diaspora, ont appris en arrivant qu'un avion arménien aurait été abattu par un F-16 turc dans l'espace aérien national hier. En prenant congé pour gagner la ligne de front, il nous donne rendez-vous à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, pour, dit-il, fêter bientôt la victoire.
C'était Claude Brouillot, envoyé spécial de France Culture à Erevan. Ce matin, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a exclu le déploiement de forces de maintien pour la paix dans le Haut-Karabakh. Ce vote à présent qui provoque la colère des Européens. À Londres, les députés britanniques ont approuvé hier soir le projet de loi du gouvernement de Boris Johnson sur le Brexit. Un texte qui revient en partie sur l'accord qui avait été trouvé avec l'Union Européenne. Il viole de l'aveu même de Londres le droit international. Il a regardé dernièrement bon nombre de vidéos d'un parti pakistanais extrémiste. Le ressortissant pakistanais accusé d'avoir grièvement blessé vendredi à Paris au hachoir deux personnes a été mis en examen. Hier, il est écroué pour tentative d'assassinat terroriste. Il pensait en fait s'en prendre à la rédaction du journal Charlie Hebdo qui a déménagé depuis 5 ans. L'homme n'est pas arrivé en France quand il était mineur. Il s'est fait passer comme tel auprès des autorités. Et depuis, les enquêteurs ont remarqué que cet homme avait regardé des vidéos du TLP, un mouvement politique pakistanais qui encourage la violence et la radicalisation. Présentation ce matin avec Nathalie Hernandez.
La lutte contre le blasphème est son arme politique. Une arme dont il n'hésite pas à se servir, comme cela a été encore le cas début septembre, après la réédition des caricatures de Mahomet par Charlie Hebdo. Des manifestations ont eu lieu à l'appel du TLP, le Tehrik et la Baïk Pakistan, au cours desquelles un drapeau français a été piétiné et brûlé. Fondé il y a 5 ans par Hadim Hussein Rizvi, le mouvement défend la peine capitale pour blasphème et n'hésite pas à cautionner les assassinats d'opposants à la loi pakistanaise. En 2018, le parti extrémiste va même réussir à bloquer les principaux axes du pays pendant 3 jours après l'acquittement de la chrétienne Asia Bibi. Aujourd'hui, les autorités pakistanaises redoutent que le radicalisme de ce mouvement gagne encore en ampleur, en particulier au Pendjab, l'une des 4 provinces fédérées du Pakistan, la plus peuplée et la plus riche du pays.
Nathalie Hernandez. Pour ce qui est de l'attaque en 2015 à Charlie Hebdo et toutes celles qui ont suivi de l'hypercachère jusqu'à Dammartin-en-Goël, le procès continue à Paris devant la cour d'assises spéciale. 14 personnes sont jugées pour complicité. Cette semaine, les enquêteurs racontent leur enquête, justement. Vous pouvez retrouver toutes les chroniques judiciaires de ce procès grâce à Florence Turme et Éric Chavroux sur notre site internet franceculture.fr. Une journée cruciale pour le possible rapprochement entre Veolia et Suez ce mercredi. Engie attend une offre améliorée de la part de Veolia pour sa part dans Suez. Les tractations se poursuivaient encore tard hier soir. Il est 8h, passé de 8 minutes sur France Culture. À l'heure de la pandémie de Covid-19, le Secours Populaire présente ce matin son baromètre annuel sur la pauvreté. C'est un rapport largement consacré à l'impact de la crise sanitaire sur les personnes en situation de précarité. Pendant les 2 mois de confinement au printemps, par exemple, 45% des personnes n'étaient pas connues de l'association et ont eu recours au Secours Populaire. Secours Populaire qui compte plus d'1 200 000 bénéficiaires. Catherine Pétillon a rencontré Gwenaëlle. Elle vit en Seine-Saint-Denis à Romainville. La crise a mis fin à ses contrats. Elle ne relève plus des dispositifs d'aide de l'État et elle a dû, à son tour, demander de l'aide au Secours Populaire.
À 39 ans, Gwenaëlle a déjà 15 ans d'expérience comme formatrice en entreprise et des clients fidèles. Une activité qu'elle exerce de façon indépendante avec le statut d'auto-entrepreneuse.
Et là, est arrivé le confinement et annulation de tout.
Elle touche alors l'aide du fonds de solidarité instauré par le gouvernement, mais cela s'arrête fin juin.
On considère que je suis censée avoir un carnet de commandes qui se remplit énormément, sauf que je travaillais une fois au mois de septembre. Est-ce que je vais pouvoir travailler au mois d'octobre ? On se retrouve très vite dans une grosse précarité. En fait, parce qu'on a beau avoir mis un peu d'argent de côté, ben en fait, ça fond comme neige au soleil. Je suis maman célibataire aussi. Là, l'inquiétude est très très forte, en fait.
C'est pendant le confinement que Guenelle commence à se rendre au Secours populaire de Romainville, en Seine-Saint-Denis. Sans activité, elle vient alors proposer son aide bénévole.
Ça, c'était chouette de faire partie de cet élan de solidarité. Et en fait, on en arrive à se dire, finalement, je fais une demande de RSA et je vais avoir besoin d'un colis alimentaire, quoi. Je ne pense pas que ça puisse aller aussi vite.
Guenelle a rempli un dossier pour le RSA. Elle est en train de demander une suspension du prêt de son logement.
En fait, c'est plein de sentiments ambivalents. Tu te dis, est-ce que ça va continuer? Comment je vais faire pour que ça reparte? Ça te remet en perspective ta capacité à te débrouiller seule. Et puis tu te dis, non mais ça arrive à plein de gens qui travaillent, ça arrive pas qu'à des gens qui sont déstructurés dans leur vie ou ce genre de choses, quoi. C'est pas vrai. Ça arrive hyper vite et une crise comme ça, ça fait des ravages à ce niveau-là en fait. Et quand je me vois que 3 mois avant, j'encourageais un ami à faire sa demande de RSA, à aller prendre un colis et que 3 mois après, c'est toi qui te retrouves à le faire, ouais, faut souffler, hein. Faut se dire, ok, acceptation, je le fais. J'ai pas le choix.
Des propos, un portrait signé Catherine Pétillon ce matin. Notez que la coprésidente du Secours populaire, Henriette Steinberg, sera l'invitée du journal de midi et demi sur France Culture sur les conséquences sociales et sociétales de cette épidémie. Le Covid-19 qui a touché durement en une semaine 800 nouveaux malades qui ont été placés en réanimation. 800 sur 4000 admissions à l'hôpital en une semaine. Selon les chiffres de Santé publique France, le taux de positivité continue par ailleurs d'augmenter. Au début du mois, sur 1000 tests, 40 personnes en moyenne étaient positives à la maladie. Actuellement, 76 tests sur 1000 reviennent positifs. Des indicateurs préoccupants, mais les discours varient de jour en jour en fonction des scientifiques et des médecins. Axel Kahn, le président de la Ligue contre le cancer, était l'invité du journal de 22h sur France Culture hier soir. Au micro de Stanislas Vazak, il dénonce les spécialistes qui minimisent la reprise épidémique. Et ces mots sont très durs.
D'abord, je vise la brochette d'abrutis qui disent que rien ne se passe, alors que le nombre de morts a été multiplié par 6 à 7 depuis 2 mois, que le pourcentage des personnes contaminées a été multiplié par 3 et que les réanimations dans toute la France en moyenne sont remplies à entre 25 et 40% à Marseille et 25% à Paris de malades atteints de la Covid. Je suis le président national de la Ligue contre le cancer. Il y a 4 millions de personnes concernées par le cancer, concernées également par la Covid, et je m'en sens au moins co-responsable. Et par conséquent, quand j'essaye de toutes mes forces de les préserver, comme n'importe quelle Française, n'importe quel Français, mais également comme des personnes d'une certaine fragilité, pour toutes les raisons, d'ailleurs, fragilité peut-être au virus et surtout fragilité aux conséquences de l'épidémie sur le traitement de leur cancer, effectivement, les bras m'en tombent. Car s'il n'y a rien, la conséquence qu'il faut en tirer, c'est qu'il n'y a pas lieu de prendre quelques mesures de protection que ce soit. Or, je vous répète, ça n'est pas un problème de discussion, ça n'est pas un problème d'opinion. Il y a 2 mois, il y avait 10 à 14 morts chaque jour. Aujourd'hui, il y a en moyenne 70 morts chaque jour.
C'était la colère d'Axel Kahn au micro de France Culture. Et si pour sortir de cette crise, la solution venait des plantes et des champignons? C'est très sérieux. Le rapport annuel ce matin des Jardins Botaniques Royaux de Londres a été rédigé par 210 chercheurs. Et ils estiment que c'est avec l'aide de la botanique que nous pourrons peut-être nous débarrasser du Covid-19, Richard Place.
Nous avons une immense pharmacie sous les yeux et nous ne la voyons même pas. C'est en substance le message de ces chercheurs. Alors que la pandémie fait rage, ils demandent du temps et des moyens pour explorer ce que la végétation qui nous entoure pourrait nous apporter. Face au coronavirus, champignons et plantes sont nos alliés. La professeure Monique Simmons, directrice scientifique des Jardins Botaniques Royaux, en est persuadée.
Je suis certaine qu'ils contiennent des ingrédients qui seront une part de la solution. Des recherches sont en cours sur des plantes qui sont utilisées traditionnellement dans certaines parties de la Chine et de l'Afrique. Il y a là une énorme opportunité et je suis absolument sûre que certaines de nos pistes vont aboutir à partir des plantes et des champignons de cette zone.
Attention, il ne s'agit pas là d'une solution miracle, avertit le docteur Melanie Jane Hose. Cette spécialiste en phytochimie veut explorer la piste, mais il faudra de la patience.
La découverte d'un médicament et son développement, c'est un très long processus. Il est donc vital d'y consacrer du temps et des efforts. Il est clair que les plantes et les champignons sont des outils pour la médecine de demain. Ils nous offrent un beau potentiel pour lutter contre les maladies d'aujourd'hui et du futur.
Cette mine sous-exploitée que constitue la flore est en danger, alertent ces scientifiques. 20% des plantes connues dans le monde sont menacées de disparition, et parmi elles, 723 ont des vertus médicinales déjà identifiées.
C'était Richard Place pour France Culture. Le temps de ce mercredi en France métropolitaine, ce sera pluvieux sur le nord et le nord-ouest, plus ensoleillé ailleurs, entre 6 et 17 degrés du nord au sud ce matin.